notre parcours qu'on a abordé ce matin. Maintenant, nous allons y plonger, un peu comme on plonge dans une piscine, piscine de la parole de Dieu, en considérant donc le premier mot de la phrase qui vous accompagne au chapitre, marcher. Marcher ensemble, donc marcher. En commençant par une ouverture sur l'Ancien Testament, sachant que beaucoup de textes et beaucoup de passages, beaucoup de péricopes, beaucoup d'histoires de l'Ancien Testament parlent de la marche, évidemment. On marche beaucoup dans la parole de Dieu. On ne fait que ça, d'ailleurs. Si vous connaissez sans doute le très bel ouvrage de Christian Bobin sur l'homme qui marche, qui parle justement aussi de Jésus qui est celui qui marche. On marche beaucoup dans la parole de Dieu. Mais l'Ancien Testament est un long récit de départ, de marche et de déplacement. Dieu exige toujours un arrachement. Pars de ton pays. Cette parole adressée à Abraham sera entendue par de très nombreux prophètes qui obéiront à l'ordre divin, comme si l'exil, la perte, le renoncement à une terre, une famille, un bien-être pouvaient être bénéfiques, une expérience de l'intervention divine. Les apôtres recevront la même consigne, partir, c'est répandre l'évangile, c'est affronter 1000 morts, mais c'est découvrir que l'épreuve en vaut la peine. L'épreuve du partir, l'épreuve de l'exil, c'est notre premier point. Dans l'Ancien Testament, c'est par la marche que le peuple élu forge son identité. Le départ d'Abraham, l'exode dans le désert et l'exil à Babylone sont des événements fondateurs de l'histoire des hommes avec Dieu. Lorsqu'Adam et Ève, dans le livre de la Genèse, sont expulsés du jardin d'Éden, vous vous souvenez de ce petit passage, c'est le chapitre 3, verset 24. Dieu posta les chérubins à l'orient du jardin d'Éden avec la flamme de l'épée foudroyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Le sens de ce verset énigmatique est d'interdire le retour vers le passé. Marcher, c'est forcément aller de l'avant et de l'avenir. Interdire le retour dans le passé. L'histoire est à construire. L'avenir ne se situe pas dans la nostalgie d'un paradis perdu. Les grandes étapes de la révélation du Premier Testament sont marquées par une mise en marche, un déplacement. D'abord, Abraham, premier grand déplacement, Abraham, le commencement. Abraham vivait dans une ville appelée Haran quand il a reçu une parole qui a fondé toute sa vocation. Genèse chapitre 12, les deux premiers versets. Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Elle peut aussi se traduire par « va pour toi-même, hors de ton pays ». C'est même le sens le plus juste en hébreu. « Va pour toi » ou bien « va vers toi ». Par cette parole, Dieu dit à Abraham que c'est sur la route, pendant le temps qu'il faut, le temps du déplacement, que se trouvera la vérité. Pas à l'arrêt, pas en stop, pas dans une étape, mais sur la route. C'est en marchant qu'il se trouvera lui-même, qu'il découvrira sa vraie personnalité, le sens même de toute sa vie. Dans son exil, Abraham comprend que son identité ne se trouve pas derrière lui, dans sa naissance, sa nationalité ou sa terre, mais qu'elle est devant ses pas au terme d'une marche dans le désert. Le départ d'Abraham n'est pas le sacrifice d'un homme qui renonce à son confort et à sa tranquillité pour plaire à un Dieu qui aime qu'on lui obéisse. Il marche vers lui. Il marche pour lui. Un commentaire d'un rabbin disait ceci. Il racontait qu'Abraham ressemblait à un flocon d'essence de rose posé dans un coin et fermé par une cordelette. Et il ne sentait rien. Lorsqu'il s'est mis à marcher, c'est comme si on avait desserré la cordelette, son parfum a commencé à s'exhaler. Il est enfin devenu lui-même. La parole que Dieu donne à Abraham ne dit pas va vers le pays que je te montre, mais va vers le pays que je te ferai voir. Le but de sa marche s'écrit au futur. C'est en marchant qu'il le découvrira. Dans le Nouveau Testament, lorsque l'épître aux Hébreux relit l'histoire d'Abraham, elle insiste sur ce nomadisme. Il dit, c'est dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, le verset 9, par la foi, Abraham vint résider en étranger dans la terre promise, habitant sous la tente avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Tous les hommes de foi, et les femmes aussi, de ce chapitre ont en commun de s'être reconnus étrangers et voyageurs sur la terre. Selon ce passage, la foi, c'est se considérer comme un voyageur, une voyageuse, toujours en marche, quel que soit son âge, puisqu'Abraham était plus âgé que n'importe qui parmi vous, et jamais arrivé. La perspective de votre chapitre, comme peut-être, et c'est souvent le cas, dans nos congrégations, la vôtre comme la mienne, où l'on se dit, mon Dieu, ah, quand nous étions jeunes, il y avait tellement de sœurs, nos maisons étaient pleines à craquer, les enfants couraient partout, nous avions un avenir, c'était formidable. Et aujourd'hui, alors on nous dit, vous avez des vocations? Alors on est un peu penaud et on dit, oui, on en a, mais pas en France. Alors, ça aussi, vous avez des vocations, ah oui, et des Français ou des Françaises? Ben non, pas beaucoup. Et alors on se dit, bon, ben voilà, et on regarde derrière, un peu comme Abraham aurait pu regarder derrière cette terre où il était tranquille, où c'était tellement beau, où il y avait tous ses troupeaux. D'autres, les oignons d'Égypte qui étaient tellement, tellement bons. Et pourtant, Abraham, ni Moïse, ni les autres ne s'en sont tenus à leur sécurité et à leurs bons souvenirs. Ils sont partis vers un ailleurs dont ils ne connaissaient pas la destination, souffrant parfois mille morts et mille inquiétudes, mille peurs aussi. Aucune sécurité. Mais c'est ça. C'est pas confortable, hein. C'est pas ce qu'on aurait voulu et c'est même pas ce qu'on attend de nous parfois. Mais pourtant, c'est bien ça. À quoi ressemble aussi notre vie et notre vie religieuse? Oui, nous n'avons pas beaucoup de sécurité. Oui, nous sommes bien fragiles. Oui, on a l'impression que finalement, il n'y a pas beaucoup d'avenir devant nous. Abraham, malgré son grand âge, a pris la route, confiant. On parlait de Moïse à l'instant, on va parler de l'Exode maintenant, deuxième point. L'Exode qui fait naître Israël. Un Exode, une marche peut continuer à faire naître, vivre votre congrégation aussi. Rachi de Troyes, c'est un des plus grands rabbins du Moyen Âge qui a beaucoup beaucoup écrit, beaucoup commenté la parole de Dieu. Et il commence son commentaire de la Genèse en écrivant: la Torah aurait dû commencer au chapitre 12 de l'Exode. Vous savez tout ce que c'est ce chapitre 12 de l'Exode. C'est la sortie, c'est le passage de la mer Rouge. Nous allons l'entendre dans quelques semaines, notamment au soir de la veillée pascale. Qu'est-ce que c'est que ce passage de la mer rouge? Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont vu Les Dix Commandements, le fameux film des années 60. Et si du coup vous avez en tête ces grandes murailles d'eau avec ces poissons qui passent la tête, et on dit waouh, extraordinaire. La mer rouge, c'est quoi? Ce passage de la mer rouge, à quoi ça nous fait penser et qu'est-ce que c'est effectivement? Imaginons ce peuple de fuyards, incertains, ne sachant pas quel est son avenir, voulant absolument fuir l'esclavage. Derrière eux, la mort, avec Pharaon qui arrive avec ses armées. Devant eux, la mort, avec cette mer. L'homme et la femme ne sont pas des animaux aquatiques, donc on ne peut pas y vivre très longtemps. La mort derrière, la mort devant, qu'est-ce que l'on peut faire? Il va y avoir ce fameux passage de la mer rouge. Alors, ce passage de la mer rouge, quand on lit le texte d'Exode 12, vous avez dû entendre, on n'en fait pas tellement cas de ce petit mot, mais pourtant il est essentiel et vous le réécouterez peut-être de manière nouvelle si vous l'avez oublié au soir de la veillée pascale. On dit, le peuple traversa la mer rouge à pied sec. S'il y a bien un endroit qui a priori est détrempé, c'est le fond de la mer. De préciser que l'on traverse cette mer à pied sec, ce n'est pas une figure de style mignonne, bien écrite comme ça. C'est qu'il y a derrière quelque chose d'important qui a voulu être justement mis en place par l'écrivain biblique. La mer, vous le savez, pour les Hébreux, la mer, c'est le contraire de la terre promise. Sur la terre promise, ils pourront vivre, devenir, s'établir, grandir, exister. La mer, c'est tout le contraire. Et la mer, du coup, concentre dans la représentation des Hébreux et des Juifs tout ce qui est inquiétude, tout ce qui est incertain, tout ce qui n'est pas solide, tout sur quoi on ne peut pas vivre et pas vivre longtemps, en tout cas. Vous savez bien aussi que les Juifs, ils ne sont pas du tout un peuple de navigateurs. Ils ont la trouille de l'eau, les Juifs. Ils appellent un pauvre lac, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller en Terre Sainte, le lac, la mer de Galilée. On va se calmer, messieurs. C'est un lac, c'est tout. Et justement, ils sont très, très. La mer, pour eux, les inquiète profondément. L'eau, c'est le lieu de Léviathan, c'est le lieu de la peur, c'est le lieu de l'inquiétude. Donc, traverser la mer à pied sec, c'est un acte de foi inouï. Non seulement on traverse l'épreuve, mais on la traversera à pied sec. Un peu plus tard dans l'évangile, Jésus va mieux faire encore. Rappelez-vous ce passage où Jésus marche sur l'eau avec Pierre. Vous resituez la scène? Dans le bateau, les apôtres sont dans le bateau, et puis ils voient arriver Jésus, et puis vous avez Pierre qui dit, je veux venir. Jésus lui répond, viens. Et qu'est-ce qui se passe? Plouf! Bon, alors le plouf, ça aussi, saint Matthieu est très intéressant par rapport à ça. Parce qu'il ne fait pas plouf, Pierre, justement, si vous regardez bien bien le texte. Combien de temps il faut pour mettre un pied dans l'eau? Ça vous met combien de temps? Quand vous prenez un bain, ça vous met combien de temps pour mettre le pied dans l'eau? Combien de temps il y a entre dehors et dedans? Rien, une fraction de seconde. Ça, même pas une fraction de seconde. Matthieu, dans son texte, va mettre deux verbes de temps. Il va dire que Pierre commence, ce qui suppose une suite, à s'enfoncer, ce qui suppose une suite. Commencer à s'enfoncer. Évidemment, Matthieu s'est amusé à faire cela pour dire que il sait très bien que normalement, quand on rentre dans l'eau, c'est immédiat. On ne dit pas, tiens, je commence à m'enfoncer. C'est pas des sables mouvants, c'est de l'eau. Donc c'est une manière de dire, c'est le temps qu'il faudra pour Pierre pour se retourner vers le Christ et lui dire, Seigneur, sauve-moi, et que le Christ le saisisse. D'accord? Traverser l'eau, traverser les épreuves, même jusque dans l'évangile, accomplir où on ne traverse plus simplement l'eau, mais on la domine en marchant dessus. En marchant dessus, c'est ce que fait Jésus, est-ce qu'il invite Pierre à faire avec lui? Et que si jamais on s'y enfonce, il ne faudrait même pas le temps nécessaire pour dire sauve-moi, que d'être déjà saisi par la main du Seigneur. Donc c'est ça l'expérience que va faire le peuple, cette traversée d'être sauvé alors que la mort est derrière avec Pharaon qui débarque avec tous ses chars et ses armées, et la mort est devant avec cette mer. Si on y plonge, on ne pourra pas y vivre très longtemps. Je reviens à ce passage de l'Exode. Si le départ d'Abraham correspond donc au commencement de la foi, l'Exode est l'acte de naissance d'Israël en tant que peuple. Moïse avait connu un premier exil lorsqu'il a quitté le pays de sa naissance pour avoir pris la défense d'un Hébreu maltraité. Vous connaissez cette histoire. Lui qui était prince d'Égypte est devenu berger en terre étrangère. Et c'est comme berger qu'il a reçu la vocation d'être libérateur. Pas en étant prince d'Égypte, c'est en ayant changé de vie, en étant sorti, en étant parti. Après avoir quitté l'Égypte, le peuple a reçu la Torah au mont Sinaï, car la loi ne pouvait être donnée qu'à un peuple qui s'est purifié au désert. C'est pourquoi, selon la tradition, elle n'a pas été donnée à Adam, ni à Noé, ni au patriarche, mais à la génération de Moïse qui a vécu la servitude et la libération, la sortie, la marche, le déplacement. La Torah est le signe de cette libération. Les sages ont souligné l'importance du désert, un lieu sans frontières pour recevoir la Torah, une façon de dériterrioriser son message qui n'est pas tributaire d'une terre. Elle n'est pas la Torah d'un pays, mais d'un peuple. Elle s'adresse à tous les humains qui se savent appartenir à cette histoire. Et à la fin de sa vie, Moïse, qui est mort sur le mont Nebo, en face de la terre d'Israël, eh bien, le commentateur Rachi dit qu'avant de mourir, Moïse a vu le tombeau dans lequel ont été enterrés Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob et Léa. Et il a demandé à Dieu que ses propres ossements soient réunis aux leurs, afin qu'à la résurrection, ils ne soient pas séparés. Dieu s'est opposé à ce projet et la légende raconte que c'est lui-même qui a enterré Moïse. Et personne ne sait où. L'ignorance du lieu de la tombe de Moïse a une raison théologique. Comme elle est nulle part, elle peut être partout. La parole transmise par Moïse est donc universelle. Elle peut être reçue par tous les peuples, dans tous les lieux, dans tous les temps, jusque à vous aujourd'hui. Encore une fois, marcher courageusement, quitter des sécurités, avoir l'impression peut-être qu'il n'y a pas nécessairement d'avenir quand on se compte, quand on se regarde, quand on dit l'Église, l'état actuel de l'Église, etc. Eh bien, si. Il y a quelque chose d'une espérance, malgré tout, en tout cas qui s'est vérifiée dans la foi d'Abraham, non seulement d'Abraham, mais de Moïse et de ce peuple qui s'est mis en marche. Le croyons-nous pour nous? Autre étape, l'exil et le retour vers Dieu. L'histoire biblique du peuple d'Israël se découpe donc en deux grandes parties. Une première ascendante, qui va de l'Exode à l'instauration de la royauté. Pas difficile de décrire l'action de Dieu dans cette phrase. Dieu est celui qui a pris quelques tribus esclaves en Égypte pour en faire, à travers une marche dans un désert, un peuple avec une loi, une terre, un roi, une capitale, une armée, une administration, un temple. Dieu a pris quelques sœurs du côté de Grama il y a quelque temps pour les mettre ensemble, pour leur donner une supérieure générale, une maison mère, plein de sœurs, une administration et même une chapelle. Mais qui dit sommet, dit commencement de la descente. Et en quelques siècles, le peuple va tout perdre. Le pays va se scinder en deux royaumes, celui du nord, Israël, qui s'effondrera en 722 avant Jésus-Christ sous les coups de l'Empire assyrien, et celui du sud, Juda, en 587, lors de la prise de Jérusalem par le fameux Nabuchodonosor. Le peuple se retrouve à la case départ, n'a plus de terre, plus de temple, plus de roi, plus de liberté. Il est exilé en terre étrangère. Alors vous n'en êtes pas là, hein? Il y a encore une supérieure générale, vous avez encore une maison, mais voilà, peut-être que dans le cœur de certaines sœurs, de certaines personnes, on se dit, c'est quoi notre avenir? Retrouvons justement cette espérance malgré tout dans ces textes qui sont fondateurs pour nous. Eh bien, c'est le temps de l'exil, qui est une marche, oui, un déplacement, bien sûr, mais une épreuve aussi. Et c'est aussi un temps de reconstruction religieuse. La perte la plus importante a été celle du temple. Comment rendre un culte à Dieu lorsqu'il n'y a plus de lieu sacré? Les exilés ont répondu avec l'instauration des synagogues. Pas encore la synagogue comme bâtiment, mais la synagogue comme lieu où les croyants se retrouvent pour relire leur histoire, pour étudier les Écritures et pour prier. Si l'activité principale du temple était le sacrifice comme mode de relation à Dieu, en exil, c'est l'étude du livre qui a rempli cet office, la rédaction et la compilation des sources qui ont formé l'ébauche du Premier Testament datent de cette époque. Le passage du triptyque temple-sacrifice-prêtre à celui de synagogue, livre, rabbi, correspond à un changement de paradigme. Il fait écho à l'opposition que Max Weber a mis en valeur entre religion magique et religion éthique. Nous pouvons élargir notre compréhension de l'exil au-delà de la période historique où le peuple a été déporté à Babylone pour en faire une catégorie plus générale, celle de l'homme en crise, confronté à la perte de ses repères. Vous savez bien que l'Église aujourd'hui, c'est simplement mettre à jour ce qu'elle traverse depuis tant d'années. Ces fameux abus, ces crises, etc., que l'on entend un peu partout. Nous sommes en crise, bien sûr. Nous sommes en crise et le feu est difficile à supporter. Alors on peut mettre un mouchoir sur les choses en disant c'est pas si grave, ou bien on peut regarder effectivement les choses en disant ça ne peut plus durer. C'est ce que l'Église de France, en tout cas, essaye, ou du moins a voulu décider. Peut-être les religieux et religieuses avec la Coref beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fermement que nos braves évêques, beaucoup plus frileux. Mais la vie religieuse apporte quelque chose d'extraordinaire, je crois, dans ce processus de vérité qui est en train de se faire. Alors oui, ça fait mal. Oui, on a honte. Oui, c'est difficile. Oui, on a envie de ne pas en parler. Et puis, en même temps, on ne peut plus cacher ça. On peut pas faire comme si de rien n'était. Oui, nous sommes donc confrontés pour beaucoup à une crise. Et étonnamment, et j'en discutais hier avec le curé de la paroisse à Paris, il y a des demandes de catéchuménat qui explosent en ce moment. C'est assez étrange. On aurait pu se dire, moi dans cette église-là qui ressemble franchement à un nid de guêpes, j'ai pas du tout envie d'y entrer. Eh bien, étonnamment, quelque chose d'autre est en train de se mettre en place. Mais pas au nom de l'Église et d'une séduction qui pourrait se faire sur certaines grandes figures ou des instituts. Vous savez, tous ces instituts qui nous ont dit, il y a encore 60 ans, mal les 40 ans, c'est nous l'avenir, et qui s'effondrent les uns après les autres, là, actuellement, sans avoir besoin d'en nommer. Il ne faut pas se réjouir de l'effondrement d'autres, mais de l'orgueil qui, enfin, ça peut s'écrase, ça, oui. Eh bien, ce retour un petit peu à cette simplicité passe par la parole de Dieu, passe par l'Évangile. Ceux qui viennent aujourd'hui, qui frappent à la porte de l'Église, disent, c'est par la parole que j'ai rencontré le Seigneur. C'est par cette parole que je veux, que j'ai rencontré quelqu'un. C'est pas simplement une parole, c'est véritablement quelqu'un. Peut-être, moi le premier, dans l'Église, cette parole, eh bien, on l'a pas toujours méditée, pas toujours vraiment reçue, pas toujours approfondie. Et là, on nous dit, par ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, c'est retourner à cette parole de Dieu qui est le Christ lui-même, Dieu lui-même qui nous parle. Donc ce temps, finalement, de retour à Dieu, est un temps qui passe, comme nos pères dans la foi, par ce travail de la parole de Dieu. Et je nous y invite à rendre grâce aussi pour tout ce que fait, tout ce qu'ont fait vos sœurs et ce que font encore vos sœurs quand elles font de la catéchèse, quand elles mettent en main cette parole de Dieu, parfois pour la première fois dans les mains d'un enfant. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire quand on y pense. J'imagine que peut-être parmi vous, vous avez toutes un verset de la parole de Dieu qui vous accompagne, qui vous marque, qui est un peu important, qui a fondé. Mais imaginez qu'on ne vous l'ait jamais mis entre les mains, que personne ne vous en ait jamais parlé, alors que ce verset conduit, porte votre vie de religieuse, mais de femme aussi, de baptisée. Et imaginez combien parmi vous qui peut-être avaient été catéchistes ou dans des sessions, peu importe, un catéchiste, ça va de 0 à 99 ans, comme ça la sœur qui en a 98 est avec nous, il peut y avoir justement ce grand don qui nous est fait là, de remettre cette parole de Dieu dans la main, dans le cœur des personnes qui nous entourent. Et c'est ça le cœur de notre vocation. Si vous avez réussi, alors on n'est plus à se dire, oh là là, regardez, nous ne sommes plus que 10, nous ne sommes plus que 8, et puis on se compte, et puis on n'est plus que 7, et puis je finirai toute seule. On n'est plus dans cette perspective-là. On est dans, j'ai donné cette parole qui a été donnée à 1, 10, 30, 100, qui eux-mêmes l'ont redonnée à 10, 30, 100. Et du coup, c'est dans une autre croissance, une autre filiation, mais c'est la parole, c'est pas ni notre charisme, ni notre histoire, ni nos maisons qui sont deviennent importantes, mais c'est cette parole qu'un jour on a reçue nous-mêmes, qui a bouleversé notre vie, que l'on transmet à d'autres et qui continue son chemin. Et ça, votre institut l'a fait. Je me suis amusé à lire la petite BD du Père Bonhomme. J'avoue, j'ai pas eu plus de courage encore de lire toute son grosse histoire, mais au moins la petite bande dessinée, sauf erreur, en tout cas, on le présentait comme un jeune prêtre, au moins dans sa jeunesse et tout autant après, comme un prédicateur, ayant mobilisé énormément de foules, de personnes, etc. Et cette importance de cette annonce de la parole. Merci, mes sœurs, d'avoir fait ça dans votre vie, tout au long de votre existence, et de le permettre encore dans les jeunes fondations que vous pouvez avoir aujourd'hui, et de soutenir ces fondations par ce que vous êtes. Partir et revenir. Et ça aussi marchait. Un apologue raconte l'histoire d'un homme qui a rêvé d'un grand trésor situé sous une arche d'un pont d'une grande ville à l'autre bout du monde. Le rêve est suffisamment explicite pour que l'homme en conclue que Dieu lui a parlé. Il entreprend le voyage, il se met à marcher. Après quelques jours, il arrive dans la ville de son rêve. Il cherche, il trouve le pont, il fouille sous l'arche qu'il a vue et ne trouve rien. Un mendiant qui se trouve là lui demande ce qu'il fait. Il raconte son rêve et son interlocuteur lui répond « C'est curieux, car moi aussi j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu un trésor caché derrière un poêle en faïence. » L'homme lui demande de décrire le poêle. Et il reconnaît celui de sa propre maison. De retour chez lui, il trouve le magot. Il lui a fallu entreprendre un grand voyage pour découvrir le trésor qui était dans sa maison. Cette histoire est une métaphore de notre foi. Elle est à portée de main, mais parfois nous avons besoin de partir pour découvrir ce qui était au plus près de nous depuis le commencement de notre histoire. Vous entrez en chapitre général, vous allez sans doute imaginer des choses, avoir des projets, vous donner des lignes, des engagements, des priorités. Ça, on est formidable, les religieux, pour avoir des priorités. Et alors, on a tellement de priorités qu'il n'y en a plus, en fait, parce qu'une priorité, c'est une priorité. Si vous avez plein de priorités, c'est plus une priorité, ça s'appelle autrement. Mais nous, on a des priorités. Alors, la priorité, l'option pour les pauvres. On a une priorité auprès d'éducation. On a une priorité. Et non, la priorité, là, redécouvrir, replonger dans cette parole pour soi et pour d'autres et la remettre, la donner. C'est ça la priorité. Faire connaître cette parole. Tant que les autres choses sont des moyens importants, nécessaires, les écoles, les, tout ce qu'on voudra, importants, nécessaires, bien sûr, mais la priorité est là. Ça sert à rien d'avoir la plus belle tuyauterie du monde. Alors, je sais que vous avez refait toute votre maison ici, donc la tuyauterie doit être absolument parfaite. S'il n'y a pas d'eau à mettre pour chauffer les radiateurs, la tuyauterie sera magnifique. Nos fameuses priorités pour savoir par où ça passe, et puis on va faire des stratégies, et puis on va commencer par faire une fondation, et puis on va faire retourner le tuyau par là. Mais s'il n'y a pas l'eau chaude pour faire chauffer tout ça, c'est bien, mais ça va pas servir à grand chose. On est souvent prisonniers aussi, parfois, hein, même souvent, et nous les premiers, hein, de se dire on a tellement d'œuvres et tellement important, etc. Rendez-vous compte, Bayard Presse, mon Dieu, des millions de lecteurs dans le monde, plus de 200 journaux dans le monde, plus de 3000 familles qui travaillent pour nous et dont on a la responsabilité. Tout ça est vrai. Ça demande pas de, comment dire, d'abandonner ces postes-là. Mais de se dire, c'est quoi, effectivement, le cœur de Bayard, en tout cas, et vous, le cœur de toutes vos missions, cette parole de Dieu à retrouver. Un chapitre, c'est aussi ce moment-là, avant de partir, avant de se mettre en route, très concrètement, puisqu'il va falloir quand même prendre l'avion jusqu'au Brésil, pour certains parmi vous, mais c'est aussi revenir à la source, revenir à l'essentiel, et revenir à cette parole. Alors, je surveille l'heure, il est déjà une demi-heure de parole, donc je ne vais pas faire trop longtemps. Je vais vous donner quelques petites questions d'introspection. Je vais vous donner aussi une feuille. Je vais vous le donner tout de suite, comme ça on va pouvoir lire ces questions-là, ça vous évitera de les recopier, vous les avez directement dessus. On lira un passage biblique. Lentement, et après, je vous proposerai une contemplation d'une marche dans le Nouveau Testament, une contemplation d'œuvre d'art. Je vais attendre quand même que les feuilles arrivent jusqu'à l'arrière. Donc, ce sont voilà, à partir de ce que j'ai dit, quelques pistes pour vous. Donc ce petit temps pour vous-même, un petit peu d'introspection, de réflexion. Encore une fois, il ne s'agit pas de répondre à toutes les questions, elles sont pour vous. Elles vous aident simplement à faire un point. Avez-vous déjà vécu une situation d'exil, qu'elle soit physique, psychologique ou spirituelle? Comment avez-vous vécu cette épreuve? Qu'avez-vous appris de cette expérience? Qu'est-ce qui vous motive à partir dans votre vie? Est-ce la recherche de l'inconnu, de l'aventure, de la découverte de soi? Ou bien est-ce un sentiment d'appel, une mission à accomplir? Qu'est-ce que le retour signifie pour vous? Est-ce un retour à un lieu physique, à une personne, à une époque révolue? Ou bien est-ce un retour à soi-même, à une foi oubliée, à une vérité intérieure? Et je vais vous lire ce texte dont j'ai fait référence en commençant mon intervention, l'appel d'Abraham. Avant cela, je vous invite juste à une toute petite expérience, petite expérience un peu physique. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire de gymnastique, ne vous inquiétez pas. Une expérience physique en ce sens où je vais vous inviter à fermer vos yeux et à reprendre conscience de vos jambes et de vos pieds qui touchent le sol. Simplement, reprendre conscience de vos jambes et de vos pieds touchant le sol, les instruments mêmes de notre marche. Et de vous faire sentir ainsi toute votre personne, quel que soit votre âge, quelle que soit peut-être votre fatigue, quel que soit peut-être votre épuisement physique aussi, vos maladies peut-être, mais de ressentir simplement ces jambes, ces pieds qui vous ont mené et transporté dans tellement d'endroits et auprès de tellement de personnes. Ceux et celles qui ont été importantes pour vous, ces personnes qui ont été des moments de grâce, des moments de rencontre, peut-être qu'il y a des visages qui sont en train de défiler devant vos yeux. Ces pieds, ces jambes qui vous ont mené aussi peut-être dans des situations d'impasse parfois, où ce n'était pas nécessairement la vie qui vous attendait là, mais où vous avez su rebrousser chemin et retrouver le Seigneur sous un mode de conversion, repartir autrement. Oui, prenons le temps de fermer les yeux, de reprendre conscience de ces jambes et de ces pieds qui nous ont portés toute notre vie, depuis nos premiers pas jusqu'à ce jour. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Il prit sa femme, Sarai, son neveu, Lot, tous les biens qu'il avait acquis et les personnes dont il s'était entouré à Haran. Ils se mirent en route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, au chêne de Morée. Des Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit, à ta descendance, je donnerai ce pays. Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. De là, il se rendit dans la montagne à l'est de Béthel et il planta sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Aï à l'est. Là, il bâtit un autel au Seigneur et il invoqua le nom du Seigneur. Puis, de campement en campement, Abraham s'en alla vers le Néguev. Parmi vous, qui a été en Terre Sainte, qui connaît Israël? Ok. Donc le Néguev, vous y avez mis les pieds, j'imagine. Le sec, Néguev en hébreu, ça veut dire le sec. Une terre extrêmement sèche, ce fameux désert dans lequel le peuple aussi a fait sa marche, le peuple à la sortie d'Égypte. Alors là encore, une fois, cette idée de sortie d'Égypte, qui a duré, nous dit le texte, une quarantaine d'années, 40 ans. Il faut y voir aussi que ces sorties-là, nous avons à les faire nous aussi. Nous avons à vivre nos sorties d'Égypte. Et on va voir comment, rapidement. J'imagine que, même sans être très très calé en géographie, vous visualisez à peu près la région du Moyen-Orient, on va dire grosso modo de l'Égypte à Jérusalem, on va dire du Caire et d'Alexandrie jusqu'à Jérusalem, grosso modo, il y a combien de kilomètres? Même pas. Il y a à peine 200, 300 kilomètres. Et on vous dit, ils ont mis 40 ans pour faire ça. Alors, soit ils se sont vraiment perdus, soit ils ont marché très lentement, soit ça veut dire autre chose. Soit ça veut dire autre chose. Et dans la Bible, quand on a des chiffres, ce n'est jamais pour compter. C'est toujours pour nous dire autre chose. 40, à chaque fois que vous avez du 40, il y en a beaucoup du 40, hein. Je parle pas de la taille, hein. Je parle du temps qui passe. Vous avez les 40 ans au désert, vous avez quoi encore comme 40? Alors, le carême, on n'en parle pas dans la Bible. Les 40 jours de pluie avec Noé, 40 jours et 40 nuits. Vous avez aussi, vous savez, au moment où Élie monte sur le mont Horeb et où attend que le Seigneur passe dans le murmure d'une brise légère, il passe aussi 40 jours dans sa grotte. 40, c'est aussi le temps que Jésus a passé, on a lu le texte la semaine dernière, hein, a passé dans le désert, 40 jours. 40, c'est toujours une manière de nous dire, il y a un avant et un après. Il y a une nouvelle naissance qui se fait. Pourquoi? Parce que nous avons tous passé 40 semaines dans le ventre de nos mamans avant de naître. C'est le temps qu'il faut, le temps qu'on compte pour le temps de naître, en comptant toutes les aménorrhées, etc. Donc, 40, c'est un chiffre universel. Il ne s'agit pas de marcher pendant 40 ans. Il s'agit de comprendre qu'il y a un avant et un après, un passage de l'esclavage à la liberté. Et que c'est ça le chemin que Dieu veut nous faire faire. Nos propres, voilà, je viens de taper sur le truc. Nos propres esclavages, nos propres limites à traverser et à dépasser pour vivre, que ce soit à l'échelle personnelle, à l'échelle de nos congrégations, à l'échelle de l'Église. Aujourd'hui, on en est, hein, on y est dans le désert, mais vers une perspective. Et si vous avez, alors je ne sais pas comment cette phrase a été composée et écrite et qui l'a synthétisée, mais en tout cas, soit la personne y a pensé et c'est formidable, soit c'est vraiment un don de l'esprit que de commencer par cette parole d'espérance. Marcher, il y a tout ça qui est derrière. Marcher, ça veut dire qu'il y a un avenir. Marcher, ça veut dire qu'il y a un avenir et qu'avec le Seigneur, nous n'avançons pas vers nulle part ou vers rien. Alors, je vais vous proposer une petite méditation d'une marche, parce qu'on aurait pu prendre des marches, encore une fois, Jésus en fait beaucoup. Eh bien, j'ai choisi de vous présenter une petite contemplation de ce tableau du Giotto, la fuite en Égypte. De manière assez surprenante, les artistes ont représenté depuis l'origine l'épisode raconté par Matthieu au chapitre 2 et versets 13 à 23 comme une chevauchée sur un âne à travers des paysages plus ou moins riants. Pourtant, ce n'est qu'un petit laps de temps par rapport au long séjour dans le pays égyptien vécu dans l'attente de la mort du roi Hérode. Alors que le texte évangélique insiste principalement sur le retour, avec la citation du prophète, d'Égypte j'ai rappelé mon fils, c'est toujours le départ que l'on représente. D'ailleurs, c'est même le titre de cette œuvre de Giotto, La fuite en Égypte. Giotto, qui se conforme à cette tradition, signale ainsi que la plus grande douleur vient du partir. La plus grande humiliation se trouve dans la fuite précipitée de sa patrie, de ses certitudes, de ses sécurités. Qui donc peut quitter sa maison de gaieté de cœur? Qui donc peut quitter ses souvenirs et l'importance, l'impression d'un passé glorieux de gaieté de cœur? Mais il nous rappelle que l'incarnation jette Dieu dans les périls et la fragilité propres à l'humanité, et que lui aussi doit se soumettre à l'arbitraire du temps, des despotes, des vents contraires, des chemins qui n'étaient pas prévus. Mais en même temps, l'ange du songe de Joseph est resté pour accompagner la fuite. Et Giotto ne le représente pas en entier, mais comme s'il sortait d'un nuage ou était lui-même un nuage. L'allusion à l'Exode est claire. Si les Hébreux étaient guidés par la colonne de nuée pour quitter l'Égypte, de même, la Sainte Famille fait le trajet inverse piloter de la même manière. Au milieu des incertitudes du départ, de tous les départs, Dieu reste présent. Je vous laisse avec ceci. Je vérifie mon timing pour bien vérifier. 45, je ne peux pas faire mieux. Pour que vous puissiez, voilà, vous approprier ce que l'on s'est dit, ceux qui le souhaitent, celles qui le souhaitent, du coup, ben, prendre un petit temps personnel, soit pour vous appuyer sur ce passage de la Genèse, le vieux texte d'Abraham que l'on vous a distribué, vous pouvez méditer, quelque chose qui vous nourrit, ou bien de vous appuyer aussi sur les quelques questions qui sont posées juste au-dessus du texte. Ou bien, si vous souhaitez aussi, regarder tranquillement cette œuvre de Giotto que vous avez au verso de vos papiers pour vous laisser imprégner par ce qu'elle suggère dans la perspective de votre chapitre qui emmène toute votre congrégation avec la certitude que même si c'est imprévu, même si c'est inconfortable, même si on ne sait pas exactement vers quoi on va, même si on est plus faible, plus petit, plus inquiet, Dieu